Et à 100% spoil pour ce soir. Mais si vous avez des interrogations par rapport à la pièce, si vous avez des interrogations par rapport à la traduction qu'on en a faite pour le spectacle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a mis ça en scène et tout ça, on peut, avec Samy, qui est mon assistant à la mise en scène, répondre. Moi, je joue à trait aussi dans le spectacle, donc je peux aussi parler de ça aussi, du personnage, de la façon de jouer sur le truc. On peut parler du théâtre, on peut parler de ce que vous avez envie. Voilà. Vous avez des trucs, des questions ou pas?
Je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi de faire ce
métier. Alors, c'est une grosse question ça.
Généralement, on remonte à la petite enfance.
Bah c'est ça, on va revenir. Hein. Non, écoute, je assez rapidement, j'ai eu envie. Je trouvais que dans l'art en général, il y avait un moyen d'exister, de s'exprimer que je ne trouvais pas ailleurs. En tout cas, c'est même pas que je ne trouvais pas ailleurs, c'est que j'adorais la façon dont l'art, je parle d'art parce qu'en fait au départ j'ai commencé à faire de la danse classique, me permettait de me sentir libre, vivant, rencontrer des gens, être dans des rapports qui sont différents qu'un rapport de camaraderie ou de famille, des rapports de partenaire, de scène, etc. Donc très petit, j'ai eu en fait très, très vite l'envie d'être dans des métiers artistiques. Et donc j'ai fait de la danse classique, puis après j'ai fait de la musique. Mais quand j'ai commencé à faire du théâtre, à peu près, vous avez quel âge vous?
15 ans.
Ah ouais, non, j'avais déjà commencé avant. J'ai démarré en, je sais pas, j'ai en 5e. Je sais pas quel âge en 5e. Et en fait, là, j'ai découvert que non seulement j'avais un rapport, enfin, une liberté, un rapport à l'autre, mais surtout que j'avais les mots. Et que je pouvais porter des mots et des histoires qui étaient plus grandes que ma vie, plus intéressantes que ce que je pouvais vivre moi, etc. Et j'ai complètement, je me suis trouvé complètement dans cette discipline-là, dans le théâtre, au point que, du coup, ensuite, j'ai enchaîné avec option théâtre au lycée, fac théâtre, école de théâtre, conservatoire, école nationale, enfin bref, je ne sais rien faire d'autre. C'est-à-dire que si demain ça s'arrêtait, je ne sais pas ce que je ferais. Et que j'ai eu la chance aussi que mes parents, qui ne sont pas du tout dans le métier artistique, moi j'habitais un petit village à la campagne, on allait pas au théâtre, on allait au cinéma les deux fois par an, enfin voilà, on a accepté de ce choix. Et que voilà. Donc pourquoi je le fais au début, je pense que c'était vraiment au tout départ un peu du déguisement, de ce que je te disais, de la liberté, de rencontrer des gens et puis d'avoir des rapports de scène, de partenaire avec des gens. Et puis petit à petit, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je grandissais que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le théâtre, moi je dirige une compagnie, je dirige pas un théâtre mais une compagnie, c'est-à-dire en gros une troupe sans mur, en Normandie, et je me suis rendu compte que le théâtre avait peut-être aussi une capacité d'être un outil, pas seulement pour moi, c'est-à-dire moi je trouve des choses pour le corps, vous l'avez vu, le corps, l'articulation, la timidité, ce genre de choses, ça oui, le rapport à l'autre bien sûr, mais aussi un outil pour le plus grand nombre, c'est-à-dire qu'en faire entendre ses necks, ça peut faire réfléchir, ça remet en circulation la pensée, que donner des ateliers dans les collèges, les lycées, les prisons, les hôpitaux, comme on fait, c'est aussi transmettre cet art-là aux autres pour donner aussi des outils aux autres. Je pense qu'il est un outil, donc que tout le monde peut s'en servir. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu bougé. C'était très personnel au début, puis c'est devenu un peu plus collectif.
Moi, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui change, qu'est-ce que vous trouvez qui change par rapport d'un théâtre à l'autre. Parce qu'au début, vous avez commencé au Palais des Papes, c'est ça, et maintenant vous êtes au TNS. Est-ce que par rapport à la mise en scène, ça change quelque chose pour vous?
C'est l'un des stress et des plaisirs de ce métier, c'est que non seulement les lieux changent, mais les publics, selon les régions, changent, et dans un même théâtre, selon les soirs, changent aussi. Bref, que ça reste vivant, et que c'est à la fois stressant et en même temps vraiment kiffant. Là, par exemple, on est dans le plus petit lieu pour l'instant, on aura encore plus petit après de la ville. Effectivement, le spectacle a été fait pour un lieu en extérieur qui faisait 40 mètres de large, tout ça, donc très très grand lieu. Là, le TNS est un tout petit lieu. Mais en rapetissant le plateau, on gagne en proximité avec le public, déjà en proximité avec nous, entre nous sur la scène, et en proximité avec le public. C'est-à-dire que, vous le verrez ce soir, si ça se passe bien, bon, j'ai pas de raison que ça se passe mal, on a une qualité d'écoute, un silence ici, parce que tout le monde est en fait vraiment avec, comme si vous étiez avec nous sur la scène, tellement le lieu permet cette proximité, cette complicité avec la scène. Ce qui n'avait pas du tout lieu à la Tour d'honneur, tu vois, au Palais des Papes, il y a 2000 personnes. Je pense que le dernier spectateur au dernier rang doit être, j'en sais rien, à 100 mètres de la scène. Donc autant te dire qu'ils voient ça, les acteurs grands comme ça. Alors que là, vous êtes tous tout près, on est tous ensemble. Il y a cette architecture en presque en théâtrale italienne qui permet, non même pas presque, en fait, en théâtrale italienne qui permet de que tout le monde soit dans un cylindre plutôt que, vous voyez, les théâtres qui sont plus carrés, quoi. Et donc ça crée une oppression et une intimité avec le plateau qui est vraiment, vraiment appréciable ici et qu'on découvre, qu'on n'avait pas encore trouvé et découvert depuis le début de la tournée. Voilà. Mais en fait, c'est comme ça s'appelle du spectacle vivant, à la fois c'est vivant parce que les gens qui le font sont vivants, mais le spectacle doit rester vivant, on ne peut pas le figer. C'est-à-dire que les acoustiques changent dans tous les théâtres. Est-ce qu'il faut plus ou moins porter la voix, plus ou moins adapter la mise en scène en fonction des axes de vue, etc. Bref, tout est tout le temps en train de micro-bouger, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est toujours le même spectacle, mais c'est tout le temps avec des adaptations assez, assez particulières à chaque lieu. Oui.
J'aimerais savoir, qu'est-ce qui est le plus dur dans la mise en scène quand on lance un spectacle ?
Celui-ci ou n'importe lequel ?
N'importe lequel.
Je dirais que le plus difficile, c'est de garder son... Quand je lis une pièce, chez moi, dans mon livre, je sais pas quoi, quand je lis une pièce pour la première fois, je reçois pour la première fois la pièce, et donc les images, et donc les émotions qu'elle peut me faire. Et en fait, après, je me mets à travailler un an, deux ans, trois ans, voire plus, sur le matériel, sur la pièce. Mais vous qui allez arriver... les spectateurs à 20h un mardi soir, comme ce soir, vous allez la voir pour la première fois, la recevoir pour la première fois. Donc en fait, j'essaye pendant tout le temps du travail de creuser les matériaux, creuser les références, lire d'autres choses autour du spectacle, enfin, autour de la pièce, etc. Mais d'essayer de garder cette fraîcheur que j'ai eue dès que je l'ai reçue, moi, pour la première fois, parce que c'est ce que je vais devoir refaire pour plus de gens qui, eux, vont la recevoir pour la première fois directement, sauf que traduite sur la scène. Donc ça, c'est difficile parce que souvent, je dis aux acteurs, attention, là, c'est entre nous, on sait de quoi on parle, parce que ça fait 6 mois qu'on parle de, on sait rien, attentat, la huit attentat, la huit d'ananas, sauf qu'en fait, quelqu'un qui va arriver pour la première fois, et encore, vous avez lu la pièce, vous avez un peu bossé en classe et tout, mais il y a plein de gens ce soir qui n'auront lu que le résumé dans la plaquette du TNS, et puis c'est tout. Et c'est normal, enfin, c'est comme ça. Donc il faut faire attention à ça. Que dans la salle, en fait, il y a des gens qui sont ultra pointus sur le sujet, d'autres un peu moins, d'autres qui n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre, qui ne connaissent rien, ni à la mythologie, ni à Thiès, ni à Sénèque, ni à rien du tout. Et que du coup, il faut que, dans ce que moi j'en vois, je puisse contenir tout le monde. Ça, c'est à mon avis le plus difficile à garder. Il y a plein de trucs difficiles, puis il y a plein de trucs chouettes aussi, hein, mais ça, c'est une chose à laquelle moi je fais attention.
Et pour rebondir sur cette question-là, à partir de quel moment, quand vous lisez ou quand tu lis un texte, tu te dis celui-là, je veux.
C'est ça, c'est exactement ça. Alors, à cette question-là, je réponds souvent, c'est exactement, et tout le monde connaît ça, exactement comme quand on tombe amoureux de quelqu'un, et je le veux. Non, mais c'est vraiment le même sentiment, c'est-à-dire que la pièce génère chez moi des images, des émotions, c'est immédiat et c'est inextinguible, c'est-à-dire que des fois c'est pas le plus pratique, je peux t'assurer que le jour où j'ai lu Henri VI et que je me suis dit, Henri VI c'est une pièce qui est très 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 longue, elle durait 18 heures et tout ça, 18 heures d'affilée et tout. Quand je l'ai vu, je dis non, j'ai pas envie de. Faut pas que j'ai envie de la monter, je peux pas résister, c'était immédiat. Donc c'est exactement comme l'amour en fait, le coup de foudre, vous voyez à peu près ce que c'est. J'ai déjà eu des coups de foudre. Ok. Bah enfin, il faut avoir des coups de foudre.
Non, il faut
ça dure pas 18 heures.
Non, les coups de foudre, ça dure. Non, mais non, je parle vraiment du début, quoi, de la mort, c'est-à-dire que c'est un désir qui naît. Je pense que c'est un mélange à la fois de. Il faut que tous, comme l'amour d'ailleurs, ça coïncide bien. C'est un moment de ta vie, un contexte dans lequel tu es, et puis un désir d'explorer au plateau. Là, par exemple, Sénec, c'était la question vraiment d'aller au bout du théâtre impossible, tu vois, de montrer un truc qui n'est pas montrable, de faire un spectacle, de faire une représentation de quelque chose qui est irreprésentable. J'en étais là dans ma recherche aussi à moi, mais surtout. Ben surtout, j'en sais rien, moi, des phrases comme Jupiter frappe à la voûte céleste ou un damné qui sort des enfers, qui m'a arraché du fond des enfers, ça démarre comme ça, tu te dis, wow, comment je peux faire ? Et parce que je ne sais pas comment le faire, j'ai envie de le faire aussi. Ça, c'est beaucoup. Et puis parce que c'est des éléments, enfin, c'est des événements et des personnages qui sont mus par des passions et des émotions qui sont plus grandes que nous. En fait, je crois que moi, ce qui me plaît, c'est quand on n'est pas au café ou dans le salon en train de faire un truc. Il ressemble à la vie en fait, j'ai envie d'aller plus loin, de rêver, d'aller ailleurs. Regarde ça.
Ouais. J'ai pu voir une image du décor de la pièce de Thieste, et sur la scène il n'y a pas grand chose, on a la main et puis. Pourquoi est-ce que dans le décor c'est très vide et pas coloré comme on peut voir dans d'autres pièces ?
Alors d'abord, il n'y a pas de didascalie de décor dans Jessenec. Pour une raison simple, vous l'avez certainement vu en classe, c'est que ces pièces étaient jouées dans des théâtres avec des architectures particulières. Cette grande façade, un grand mur, une grande scène, une petite scène, et puis ce qu'on appelle l'orchestre. Et du coup, en gros, l'idée, c'est que la grande façade derrière est toujours le palais du personnage principal. Là, c'est le palais d'Atrée, mais tu lis Édipe, ce sera le palais d'Édipe à Thèbes. Tu lis Agamemnon, ce sera le palais d'Agamemnon. Du coup, il n'y a pas, en fait, besoin de décor parce qu'ils ne sont pas dans un salon. On pourrait, hein. Atrée pourrait faire la première scène avec les courtisans en prenant son bain. Pourquoi pas, enfin, on peut après inventer vraiment ce qu'on veut. Moi, j'avais vraiment envie d'être comme ça, dans une espèce de proximité avec les gens et d'adresse directe. Par contre, il n'y a pas rien sur le plateau. Il y a les deux éléments de décor qui sont quand même, qui prennent toute la place, hein, quand même aussi. Et on a rarement l'occasion de voir sur des scènes. C'est-à-dire que je crois qu'un décor aussi monstrueux, qui mange comme ça, surtout ici, il mange encore en plus, non seulement les acteurs, mais aussi la main, quand on est au premier rang, mais vraiment.
Elle nous
menace en permanence pendant 2 heures. Donc c'est assez, voilà, assez angoissant. Et puis tu verras aussi que, vous verrez, pardon, que le décor passe aussi par beaucoup la lumière, qui est très active et très précise dans le spectacle. Et puis après, toutes sortes d'accessoires, ce genre de choses. Mais ce choix, il a été fait, la scénographie, si on peut en parler si vous voulez. Quand Florence Dupont, qui a traduit la pièce que vous avez interprétée ce matin, qui est spécialiste du théâtre latin, me disait que ce qui se rapprochait le plus du théâtre latin, c'était la science-fiction, le cinéma de science-fiction. Donc là, je me dis, mais pardon, comment ça, ne t'imagines pas Star Wars, Alien, ce que tu veux, un peu de science-fiction. Ok ? Et effectivement, elle a raison. Elle a raison au sens où, comme je vous disais tout à l'heure, les Romains sont toujours dans des mondes de signes, donc il y a des forces au-dessus d'eux, exactement comme dans les science-fiction, il y a des dieux, il y a des démons, il y a des super-héros, et des forces plus grandes que les êtres humains. Donc, pour montrer ces forces-là, l'idée était de montrer un ancien géant, un colosse, ou un ancien dieu tombé sur le plateau, qui reste, voilà. Et les Romains, autre raison, les Romains avaient, pour s'identifier, utiliser les mains et le visage. Par exemple, quand un empereur était décapité, on montrait sa tête et sa main pour montrer qu'il était mort. Ça permettait l'identification. Et vous verrez que Atrée, quand il tue les enfants, vous l'avez lu certainement, il ne cuisine pas les têtes et les mains des enfants pour que leur père puisse les reconnaître. Sinon, il n'aurait pu ne pas le croire. Mais comme il voit la tête et la main des enfants, il comprend qu'il a mangé ses propres enfants parce qu'il voit la tête et la main. Donc, du coup, la tête et la main, c'est peut-être aussi les restes des enfants sur lesquels ce personnage joue. Et puis la tête et la main, c'est aussi une référence à Melpomène qui est la muse de la tragédie à Rome. Et on a retrouvé un buste, enfin une statue de Melpomène qui est au Louvre, où elle a dans sa main droite un masque tragique, vous voyez les masques. Et sa main gauche est tendu, un petit peu en mode, voilà, à la fois précautionneuse et en même temps mise en garde, ne bravez pas les dieux, enfin une espèce de posture comme ça assez tendue. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir les deux éléments, en fait, cette main droite, et, enfin cette main et puis ce masque aussi sur le plateau. C'est aussi, pourquoi pas, une figure de Tantale qui sort de son fleuve, ça aussi. Bref, c'est une scénographie, en fait, qui ne bouge pas. Enfin, qui ne bouge pas, les éléments sont là et ne bougeront pas. Par contre, la lumière le fait bouger. Enfin, on a l'impression qu'il bouge, des fois on a l'impression qu'il est en colère, des fois qu'il est triste, des fois qu'il crie, des fois qu'il pleure. Enfin, voilà, il y a différentes expressions à cause de la lumière sur son visage. Et puis vous verrez que c'est une scénographie qui emmène dans le monde magique, ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas dans la réalité. Et que moi, quand je vois ça, j'ai envie de me dire, ok, on part dans la mythologie, donc il y a nos limites, quoi. J'ai pas envie de remettre une table, des chaises, enfin si, pour le banquet, il y a une table et des chaises, mais j'ai pas envie de remettre des éléments de notre réalité, parce que justement, on n'est pas dans la réalité, et heureusement, puisque vu ce qui se passe.
Que le théâtre est un des derniers remparts de la structuration de la pensée et de l'intelligence. Je pense que la bienveillance et l'ouverture. Et quels sont selon vous les autres remparts?
Les autres remparts à la pensée?
Oui.
Là.
Oui, mais quel type?
En fait, ce que je veux dire par là, pour expliquer, c'est que tout est fait pour que la pensée s'arrête, qu'on arrête de penser. Enfin, c'est pas un mal, moi aussi, hein, je regarde la télé, je vois les réseaux sociaux, mon téléphone, et ça, j'arrête ma pensée. Mais quand on est assis dans une salle de théâtre, j'ai la sensation que tout à coup, on reconvoque la pensée, qu'elle est remise en circulation. Je dis pas qu'on ne pense jamais dans la vie. Je dis simplement que tout à coup, on est devant cette histoire et on en sort en se disant, ok, mais attends, ouais, pourquoi? Et d'un coup, ça se remet en place. Et que les théâtres font partie de ça. Donc là, en général, tous les remparts à cet arrêt de la pensée, si la pensée est arrêtée, oui, parce que je pense aussi que la pensée arrêtée engendre la violence, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, une fois que la pensée, elle est fixe sur un truc, que tu as décidé ça, que tu veux plus en bouger, bah, forcément, à un moment donné, ce sera violent pour quelqu'un ou pour une situation ou quoi, et que c'est pas, voilà, faut que la pensée reste en circulation, parce que dès qu'elle s'arrête, en fait, on tombe dans une confrontation qui, à mon avis, n'est pas bonne, quoi. Enfin, est stérile. Donc si les autres remparts à cet arrêt de la pensée, c'est là en général, c'est-à-dire qu'un roman te fera la même chose. Je pense que la musique, les concerts, la question de se rassembler et de partager une chose artistique, les concerts, moi à chaque fois j'en ressors, j'ai l'impression d'être rempli de la vie et des gens avec qui je partage le monde, ça c'est une réalité. Et tout événement communautaire et festif, type quand on se rassemble pour la Coupe du Monde par exemple, c'est un bel exemple aussi de remise en circulation des corps, des voix, des rencontres. Je sais pas si vous avez vu la Coupe du Monde cet été, vous avez rencontré des gens nouveaux, j'imagine, dans les bars et tout ça. Bon, bah, c'est la même chose. Enfin, d'un coup, tu te mets en face de gens avec qui t'as pas l'habitude d'être. Enfin, voilà, ce genre de choses sont des remparts, à mon avis, à cet arrêt de la pensée, à cette. Ça répond à ta question? Ouais. Les cœurs. Les cœurs sont compliqués parce que les cœurs, on ne sait plus trop bien quoi en faire aujourd'hui. On pourrait d'ailleurs les enlever et l'histoire se tiendrait. Sauf qu'à l'époque, l'histoire, tout le monde la connaissait, donc tout le monde s'en foutait, entre guillemets. Par contre, les cœurs, c'était les nouveautés du spectacle. Donc du coup, comme je suis un metteur en scène un petit peu borné là-dessus, je me dis non, on va pas les couper. Bon, je vais les couper, hein, quand même. Mais on va pas les couper, on va les garder, essayer de trouver comment les dire. Et ça a été compliqué parce que comment est-ce qu'on dit cette parole-là sans faire retomber l'action, sans faire retomber la tension, parce que c'est vraiment 4-5 minutes de digression sur des thématiques philosophiques. Qu'est-ce que le pouvoir? Qu'est-ce que être frère? Qu'est-ce que la royauté? Enfin voilà. Ok, et bon, pourquoi tu me parles de ça alors qu'on est en train de suivre une histoire entre deux frères? C'est comme une espèce de coupure pub, quoi, vraiment une espèce de bonjour. Alors faisons un point sur qu'est-ce que c'est que la fortune ou l'infortune, etc. Bon. Du coup, ça a été très très compliqué. Mais c'est vraiment par la musique, c'est pour ça que c'était intéressant d'entendre le dernier truc aussi, c'est par la musique que tout à coup ça peut passer. C'est-à-dire que c'est vraiment de la musique et pas du théâtre. Moins du théâtre que de la musique d'ailleurs. Alors là, vous l'avez scandé, nous aussi on le scande, et sans vous spoiler, vous verrez ce soir que c'est assez, je crois que c'est assez déroutant ce qu'on en a fait. Mais ça fonctionne bien, je crois. Mais c'était plus difficile.
C'est vrai que c'est dégoûtant.
Oui, je pense pas qu'on s'attende à ça en plein milieu d'une pièce du premier siècle. Mais ça n'avait pas été. Ça, voilà, mais c'était pas pour rendre ça moderne. Hein. C'était parce qu'aujourd'hui, je pense que comme ça, on le reçoit le texte.
Et que... Est-ce que c'était une volonté de travailler la modernité, d'indiquer que finalement ce sont des passages qui restent très modernes?
Oui, il y a ça. C'est-à-dire que. Cette philosophie qui est dite dans les chœurs, peut-être que, au début, je pensais que c'était, enfin, j'étais plutôt parti sur comment est-ce qu'on fait de la philo, comment est-ce qu'on remet en circulation la pensée sur des notions comme ça et ça. Et Florence Dupont m'a dit, bon, enfin, moi, arrête deux secondes, c'est que ça reste quand même la philosophie Marie-Claire, quoi. C'est-à-dire, c'est Yogiti, quoi. C'est un peu, vous voyez les Yogiti, là, avec les petites phrases, non? Vous voyez ça? Les fortune cookies, là, vous voyez, où on mange un gâteau dégueulasse avec un truc dedans, vous voyez. Parce que bon, en même temps, se faire entendre jamais l'homme heureux ne doit s'endormir dans la confiance, jamais le malheureux ne doit désespérer d'un jour meilleur, enfin merci, mais c'est quand même pas très très haut niveau philosophique.
C'est vrai qu'il dit.
Ouais, ok, c'est juste des espèces de maximes. C'est des maximes, voilà, franchement qu'on peut lire, vous savez, dans l'horoscope, dans le bus, ce genre de choses. Et donc, effectivement, il fallait. Au début, je prenais ça très très au sérieux. Puis, effectivement, je pense que c'est déjà plus léger que ça. Et pour que ça passe, et pour que ce soit entendu, parce qu'après tout, moi, ça m'a fait du bien de. Quand je me couche, je me dis, mais attends, jamais l'homme heureux ne doit s'endormir dans la confiance. Oui, c'est vrai, attends, ça a marché aujourd'hui, mais peut-être demain ça ne marchera pas. Voilà, voilà, ok, ça me fait. Voilà. Mais oui, pour rester moderne, mais en même temps, parce que ce passage des chœurs était à l'époque les plus festifs, les plus musicaux, les plus visuels, les plus dansés, les plus. Voilà. Donc c'était aussi de revenir à quelque chose vraiment de l'ordre du spectaculaire pour ces chœurs-là, et trouver la façon aujourd'hui. La plus spectaculaire de les dire, et ça s'approche, bon, je vous spoil un peu, hein, mais ça s'approche effectivement de cette façon un peu concert.
En tant que metteur en scène, comment vous choisissez
la distribution?
Ouais. De quelle façon, en les disant, est-ce que vous avez déjà des images spontanément de comédiens, comédiennes que vous avez déjà rencontrées?
Alors, la distribution est le. Pour moi, un spectacle est réussi à 90% si la distribution est bonne. Déjà. Donc, je prends beaucoup, beaucoup de temps pour la distribution. On est en compagnie, donc on travaille depuis maintenant 13 ans avec un groupe d'acteurs et d'actrices assez, voilà, assez fidèles. On est tous fidèles les uns aux autres, je veux dire. Donc, Charline qui joue courtisan, Emeline qui joue le cœur. Et Damien qui joue Thieste sont trois acteurs qui ont été dans les rangs 6, c'est même avant rang 6, Richard III, etc. Donc eux, c'était un peu le noyau. Après, comment ça se passe? Moi, je suis un metteur en scène très sensible aux voix. Et que par exemple, pour La Furie, je voulais trouver une femme qui est. Une femme ou un homme, d'ailleurs, j'ai même hésité à un moment donné que ce soit un homme pour créer une espèce de trouble, c'est-à-dire. Tiens, on lui met par exemple une perruque, parce qu'après tout, ce qui est dit qu'elle a juste des cheveux sur la tête, des serpents, pardon, sur la tête, donc après tout, c'est. Voilà. Mais de créer en fait une espèce de. Je voulais trouver une étrangeté. Un acteur ou une actrice qui ait une étrangeté, qui avec le rôle, ce soit pas une furie classique, mais quelque chose qui soit un peu terrifiant. Et Annie Mercier, que vous découvrirez, Annie Mercier que j'ai rencontré ici il y a un an, tout pile, parce qu'on était en résidence il y a un an ici. Commencer le travail. J'avais pas encore distribué le rôle de La Furie. Enfin, si je l'avais distribué à Véronique Nordet, pour être tout à fait honnête. Et Véronique Nordet est décédée au mois de décembre dernier. Donc, je me retrouvais d'abord très triste parce que c'est une actrice que j'aimais beaucoup. Et puis, je me retrouvais avec un trou dans ma distribution. Et donc, j'ai fumé une cigarette ici à une pause et je rencontre Annie Mercier qui donnait un stage aux élèves. Et elle parle, je l'avais déjà vue et je me souviens. Et j'avais pas tilté, d'appel, pas un petit peu, qu'est-ce que vous faites et tout ça. J'ai dit, bah, on va travailler sur Sénèque. Ah ouais, Sénèque, c'est génial. Mais je me dis, ah ouais, ouais, non, mais là, il y a quelque chose. L'étrangeté, justement, c'est une femme avec une voix extrêmement particulière, très rauque, très. Puis quelque part monstrueuse dans le sens dessin animé, quoi. Vous avez un peu la Ursula, ou tu vois, la sirène, tu vois, tout ça. Je disais, actrice, je veux travailler avec elle et peut-être que le destin m'envoie un signe. Voilà, Véronique était aussi une actrice avec une voix très, très, très affectée comme ça, donc c'était aussi assez troublant. Là, je me dis, bah, voilà. Eric sur Tantal, c'est la même chose. Eric, c'est un acteur qui fait 2 mètres. Il a une voix d'outre-tombe comme ça. C'est pour ça que ça m'a fait rigoler parce qu'effectivement, qui va arracher dans tout là, oh là là, oui, vraiment, le gars il arrive de loin, ça. Et c'est vraiment vocal. Bon, après, ils sont très talentueux, puis c'est des gens dont j'aime les singularités. Je dirais que c'est ça. Je dirais que je choisis les acteurs à cause, grâce à leur singularité, c'est-à-dire le courage de l'honnêteté de soi. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont les voix qu'ils ont, les corps qu'ils ont, et assument et sont honnêtes avec eux et travaillent avec ce qu'ils sont. C'est pas de le transformer, de changer leur voix ou leur corps. Ils utilisent leur identité, leur singularité que la nature leur a donnée, ou bien, voilà. Et, ou la cigarette, par exemple, pour anniversaire. Mais voilà, ça joue de cette singularité-là, surtout.
Et pour Damien, maintenant, pour Damien, ceux qui travaillent déjà depuis longtemps avec toi, ouais. C'était aussi évident que c'était eux sur ces rôles-là, parce que tu avais déjà une idée de mise en scène précise, ou c'est venu.
Non, ça a été long parce que justement, alors là pour le coup, ceux de la compagnie, c'est pas parce qu'ils sont dans la compagnie qu'ils vont jouer dans des spectacles. Hein. Du coup, il y a d'autres acteurs qui sont pareils, comme sur Henri VI ou Richard III qui ne sont pas dans Thiest. Donc, tout ça, voilà, entre l'amitié, l'affectif et le travail. Bon, mais moi je reste concentré sur le travail et Charline, Emeline ont travaillé. À différents endroits du spectacle. Emeline, elle a fait le courtisan, Charline, elle a fait les chœurs, le messager aussi. Tout le monde est passé un peu dans tous les rôles jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, Emeline et sa technicité, on dit ça comme ça, parce qu'elle est une actrice très très précise, et il faut être très précis pour faire le chœur. Et Charline est une actrice beaucoup plus. Comment dire, liquide, plus accompagnante. Donc pour le courtisan, c'est plus sensiblement intéressant, je trouvais. Quant à Damien, il avait déjà. Damien, en fait, je l'ai choisi dans Thiès parce qu'il. Dans Henri VI, il faisait à un moment donné un monologue aux dieux, il donnait des malédictions, tout ça, parce que son seul folk se faisait quitter par Marguerite. Et en fait, je trouve que Shakespeare l'a pompé clairement Sénèque, ce passage-là en tout cas. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, s'il arrive à le faire dans Shakespeare, il arrivera à le faire dans Sénèque. Et puis, c'est un partenaire génial. Comme je joue dedans, je voulais un partenaire d'enfer avec moi. Je voulais un pote, quelqu'un avec qui j'ai entièrement confiance et qui a confiance en moi aussi, parce que c'est quand même une scène compliquée à faire, enfin, une scène brutale. Donc, je veux qu'on soit très, très, très amis.
Ouais. Est-ce qu'il y a une pièce ou un rôle que vous avez préféré interpréter?
Je kiffe pas mal Atrée en ce moment, vraiment, mais c'est normal, je suis dedans. Je dirais que vraiment j'ai grandi avec des rôles. J'ai eu la chance de jouer des rôles longtemps en fait. Les spectacles ont duré longtemps. Arlequin, nous on l'a joué 5 ans, Toa on l'a joué 2 ans, après je me suis j'ai un peu arrêté de jouer, nana, et que je suis revenu sur, avec Richard qui en gros m'a pris 3 ans avec Richard. C'est des grosses relations quoi, c'est presque autant que mes relations de couple d'ailleurs, voire plus, et du coup, c'est des gens qui m'ont fait grandir. Donc, te dire aujourd'hui qui j'ai préféré, ils m'ont tous apporté un truc différent. Par contre, je pense qu'avec Atrée, et c'est pas parce que je le joue en ce moment seulement, mais avec Atrée, j'ai vraiment la sensation d'être libre complètement et d'être à un endroit de travail très, très heureux, très clair et très juste. Que Richard, je cherchais encore des choses. Arlequin, bon, je démarrais, j'étais tout petit. Donc, tu vois, c'était encore autre chose. Atrée, voilà, je dirais Atrée.
Qu'est-ce que vous allez faire après Thiès?
Je sais pas. Je sais pas, là, tout le monde me pose la question. Non, je sais déjà que j'ai un opéra prévu en septembre prochain sur Macbeth à Bruxelles. Ça, c'est sûr, parce que j'ai rendu la scénographie la semaine dernière. Je sais bien que ça va avoir lieu. Ça, c'est septembre prochain. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé là depuis 4 ans et je suis très heureux et je regrette rien du tout. La seule chose que je sens, c'est que cette énergie est super, cette activité, l'activité génère de l'activité en plus, tu vois, c'est une espèce d'emballement et de jubilation à bosser comme ça. Sauf qu'il y a aussi une fatigue et puis surtout, au-delà de la fatigue, parce que ça va, je suis jeune, je pourrais me reposer, on dormira quand on sera mort, mais surtout la question de se nourrir en fait, de pouvoir lire des livres autres que ceux que je dois lire pour monter mes pièces, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, voir d'autres choses, partir en voyage, d'aller voir comment ça se passe dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Voilà, ça me manque un peu. Je suis un peu... ça fait 3 mois qu'on est en mode on joue chess tous les soirs. Ça, c'est super, hein, mais bon, voilà, c'est... Et je pense que je reprends un peu de temps. Donc la suite, il y en aura une. Hein. Je suis pas en train de faire mes adieux, hein, mais il y en aura une, mais certainement pas tout de suite, tout de suite. Je pense en 2020 ou 2021.
Je vais profiter de cette question et rebondir. Moi, j'ai eu la chance, je crois, il y a 2 ans, il y a 3 ans, de voir en carte blanche ici. Vous étiez à deux.
Oui.
Vous avez une lecture très très intime sur ce que vous tombez amoureux. Vous étiez juste deux. Et c'est vrai que bon, ici, chaque troisième pièce, c'est spectaculaire, c'est des grandes, grandes choses qui provoquent beaucoup d'énergie. Mmh. Il y avait une proximité, une intimité, je trouve, dans votre jeu, à tous les deux. Mmh. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas envie justement de venir à quelque chose de plus intimiste à deux, avec un texte beaucoup plus intime, qui s'adresse pas à l'humanité, avec pas du mystique, mais qui convoque des émotions. Parce que c'est vrai que alors, c'est magnifique de voir sur scène. Dans des grandes productions comme ça, je dirais. Mais il y avait aussi quelque chose d'indicible de pouvoir. Jusqu'à Salgini, on était très très proches.
Ouais.
Et c'était vraiment. On découvrait d'une autre façon.
Ouais. Alors, ça, j'ai adoré ce travail dont tu parles. Et puis, c'est vrai que je suis un peu tombé dans la question plus spectaculaire depuis les Shakespeare. Et c'est devenu presque un truc un peu militant. C'est-à-dire, comme je trouve que le théâtre est fainéant. En règle générale, et que la question de l'imagerie, la question du spectacle est un peu en peine. Du coup, c'est vrai que j'arrive moi avec mes gros sabots et je fais exprès un peu de dire non, allez, bah! Ce qui est un peu idiot, hein, mais qui est aussi presque militant. Bref. Et du coup, peut-être qu'il faudrait. En fait, par exemple, là, je pense que je suis arrivé, c'est pour ça pour répondre, ça va répondre aux deux questions. Pour répondre un peu à ta question plus précisément, je crois que je tirais un espèce de fil sur la question des grands plateaux, des grandes formes, du monstrueux, et que je suis arrivé avec attrait au modèle alpha, quoi. C'est-à-dire que attrait est le modèle de tous les autres monstres qu'il y aura dans le théâtre. C'est vraiment la racine du mal, le théâtre, elle est là, je crois. Donc du coup, j'y suis, bon voilà, je suis arrivé au point de départ. Donc maintenant, je pense que je peux fermer ce chapitre-là. Et peut-être en ouvrir un autre. Par exemple, j'adorerais, je crois que j'en ai un peu besoin, faire de la comédie là. J'adorerais ça. J'adorerais faire une écriture contemporaine, mais ce que je lis dans l'écriture contemporaine, même si ça j'avais adoré ce travail, et puis on peut toujours trouver son plaisir dans tout, et ben, je trouve que justement l'écriture contemporaine, et pourquoi est-ce que beaucoup de metteurs en scène prennent des romans et tout ça, c'est que ben, justement en termes de théâtre, moi je trouve ça un peu pauvre, et que j'ai pas beaucoup à manger. De mise en scène et tout ça, donc j'adorerais une grande œuvre contemporaine, voilà, un grand plateau. Pourquoi pas de la comédie musicale, enfin voilà, peut-être autre chose, aller ailleurs. Parce que je pense que je vais arriver à la fin d'un cycle.
Excusez-moi,
encore
une ou deux questions.
Yep.
Moi, je veux savoir, c'est quoi votre quotidien? En tant que metteur en scène.
Alors. ça dépend des moments. Là, par exemple, on est en tournée, donc le quotidien, c'est quoi? C'est venir le matin, pouvoir rencontrer des gens de lycée ou pas, faire des ateliers, etc. L'après-midi, c'est. Là, c'est assez cool, parce qu'on reste dans la même ville, et tout ça, donc l'après-midi, je sais pas ce que je vais faire cet après-midi, je sais pas encore. lire peut-être. Et ce soir, à 17h, je vais arriver ici, je vais me chauffer, je vais me maquiller, je vais me préparer, et à 20h, on joue. Du coup, je sors à 22h30, 23h, le temps d'enlever tous mes trucs et tout ça. Et à 23h, on mange, et puis on se couche vers 2h du matin, donc on se réveille vers 10, 11h du matin, en gros. Mais ça, c'est en tournée, c'est quand c'est cool. Parce que sinon, c'est pas cool. C'est moins cool. Hein. En création, bah, c'est du 9h minuit dans un théâtre. Le matin, je travaille avec la technique. Les lumières, le son, le décor, les accessoires, ce genre de choses. Des réunions de production, l'argent, il nous reste combien d'argent, on va acheter ça, faire passer une commande, tout ça, tout ça. Bon. L'après-midi, c'est souvent répétition avec acteurs plus techniques. Donc là, c'est là où on joue, on crée avec les lumières, le son tout en même temps. Et le soir, c'est davantage que les acteurs. Puisque la technique voilà, est libre, et le soir c'est que acteur, c'est ton travail de table, ton travail de précision, ton travail de plus méticuleux. Ça c'est en création, et ça peut durer 6 à 7 semaines. Et puis après le quotidien, c'est aussi que tu n'es jamais dans ta ville. Moi j'habite pas ici, j'habite à Rouen, mais j'y suis jamais. J'avais compté, je crois que l'année dernière j'ai passé 36 nuits chez moi, l'année dernière, en 2017. Voilà, donc tu vois, après voilà, après tu as par exemple le quotidien, ça peut être aussi. Bah, quand tu donnes des stages, là par exemple, je donnais un stage au TNS au mois de mai, donc bah, là c'est pareil, c'est du 9h minuit, mais avec des élèves à qui tu transmets, à qui tu fais construire un spectacle avec eux. Et puis il y a toute une partie de notre activité qui est une partie qui me manque, justement ce que je disais là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir se nourrir, partir en voyage, lire, etc. Et ça voilà, je fais pas trop. En gros, c'est ça le quotidien d'un metteur en scène. J'oublie des trucs, les interviews,
oui.
La presse et tout ça, ça y en a
beaucoup. Et d'autres projets.
Et puis, oui, en fait, là par exemple, voyez, par exemple c'est vrai, là, je dis cet après-midi, je vais lire ou je sais pas ce que je vais faire, mais en fait, il faudrait que j'ai quand même du boulot, c'est-à-dire que j'ai mon Macbeth à préparer quand même. Pour septembre prochain, j'enregistre un bouquin par exemple au mois de janvier pour Gallimard, donc il faut quand même que je le lise. D'ici là, c'est tout le boulot. Il faut que, notamment, j'ai travaillé sur un clip en ce moment, donc il faut que je fasse le storyboard là, du clip. Donc en fait, j'ai pas tout qu'à faire, je vais pas du tout lire. En fait, voilà, bon.
Est-ce que vous laissez les acteurs libres de faire des propositions de mise en scène ou c'est vous qui les dirigez?
Ils sont très fortement invité à être des créateurs. J'irai plus loin, je pense que le metteur en scène a coincé la liberté créatrice des acteurs et des actrices au cours du XXe siècle et qu'il y a un problème avec ça. Moi, je suis pas tellement pour les metteurs en scène. Non, je ne suis pas pour les metteurs en scène, parce que je n'en suis pas un, en fait, je suis d'abord un acteur, et que du coup je pars de là, c'est-à-dire je suis devenu metteur en scène, on me dit ça, mais en fait, je suis comme un acteur qui en fait jouer d'autres, et je pense que les acteurs sont capables, à partir du moment où on leur donne un texte, qu'ils sont intelligents, un acteur qui est intelligent, tout le monde est intelligent de savoir ce qu'il doit faire. Après, il faut un metteur en scène pour que ce soit cohérent, quoi. C'est-à-dire que si tout le monde fait tout dans son coin, tout ce qu'il veut, tout dans son coin, ça ne va pas fonctionner. Mais en fait, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est écrit ça, c'est écrit ça, on ne peut pas faire autrement. Donc, non, je suis plutôt un metteur en scène qui laisse très très libre les acteurs. Et après, avec ce qu'ils proposent, moi je récupère et j'organise. Mais c'est tout. Oui. C'est sur quoi qu'on y joue? C'est sur quelle console?
Vous pouvez l'acheter sur PC.
Ah ok.
Sur toutes les consoles.
Ok.
Mais il a dit tout à l'heure qu'il avait plein de travail.
Undertale, tu dis quoi?
Undertale. Ok. Attends, je cherche.
Il n'y a pas de spectacle en septembre, on s'en fout.
Le prochain spectacle est déjà prêt à temps, on pourra accuser Arthur d'avoir complètement perturbé toute la progression.
Ah, mais toi, il est sur Switch en plus, trop bien. Et comme je suis jamais chez moi, évidemment, je prends une console que je peux emmener partout. Ok.
On va peut-être pas trop.
Ouais.
Tu y joues aussi?
Oui.
C'est bien, tu confirmes?
Oui, je confirme.
Je reviens. Vite à la FNAC.
Vous a payé combien pour faire des placements produits Switch?
Non, rien. Non, parce qu'effectivement, j'en parle souvent des jeux vidéo, mais non, hélas, j'adorerais qu'on me donne. Non, mais moi, je suis vraiment. Ouais, j'adorerais être sponsorisé par Switch, honnêtement, qui m'envoie leur nouveau jeu et tout, j'adorerais. Sauf que non, hélas, non, j'en parle et ils me donnent rien.
Merci beaucoup.
Bah, merci à vous. C'est top. Merci.